Je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi, ça m'arrive de ne pas avoir envie de rencontrer quelqu'un. Ou alors, même dans mes rapports avec quelqu'un que je rencontre souvent, d'aborder un certain sujet. Et mille et une façons de contourner la difficulté, d'aborder d'autres sujets, bref. Mais il vient toujours un moment où il faut y aller. Et ça arrive aussi aux prédicateurs. Et ça arrive aux prédicateurs que je suis. Je vous ai embarqué dans une étude du livre du Deutéronome, qui est un livre magnifique. Et sans que je le veuille, ce livre nous a mis à étudier, enfin nous a conduit à étudier les 10 commandements. Il y a un des commandements, j'ai toujours un peu de mal, c'est le quatrième. C'est le quatrième commandement, le commandement du repos du sabbat. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment terriblement complexe, théologiquement parlant, et c'est très polémique, et ça fait plein de tensions. On pourrait croire que le commandement du sabbat est un commandement particulièrement facile. Plus qu'un commandement, c'est un cadeau. C'est du repos. Et on pourrait se penser que ça devrait bien passer. Mais non, c'est un commandement particulièrement difficile à traiter. Et la littérature à ce sujet est tellement vaste qu'on a toujours peur d'oublier un aspect important. Bref, pour un prédicateur, ce n'est pas un cadeau, je peux vous le dire. Et donc, j'ai fait d'autres choses avant, hein, mais bon, il faut y aller. Et puis, par hasard, si le hasard existe, j'ai écouté une prédication d'un de mes maîtres, le professeur d'Ancien Testament, Émile Nicole, que j'estime très hautement, sur ce sujet, et que je trouvais tellement lumineux que je me suis dit, oui, je vais faire comme lui. Et je lui ai d'ailleurs demandé l'autorisation de pouvoir lui pomper sa prédication, qu'il m'a gentiment accordée. Et donc, ce que je vous présenterai aujourd'hui est fortement inspiré de quelque chose qu'il a dit lui-même. Alors, avant de lire le texte, je vous propose qu'on prie un instant. Père Céleste, nous te remercions. Nous te remercions d'être ici aujourd'hui et de pouvoir étudier ta parole. Nous te remercions de cette parole et nous te remercions de la liberté que nous avons de nous pencher dessus ensemble et d'être assurés que tu es au milieu de nous au moment même où nous le faisons. Je te supplie que tu nous offres en plus ton esprit. Parce que sans ton esprit, ta parole, c'est que des mots. Mais quand ton esprit la vivifie, elle devient quelque chose de magnifique. Et je te prie qu'il travaille en nous, qu'il travaille en moi quand je parle, et qu'il travaille en tous ceux qui m'écoutent pour qu'ils puissent comprendre et appliquer par la suite ce que tu veux nous dire. Amen. Alors, je vous ai dit, on est dans une série sur le Deutéronome, mais j'ai choisi de nous faire lire le commandement dans sa version de l'Exode, pour une raison que je vous expliquais peut-être tout à l'heure. Les deux sont assez semblables, il faut le dire. Exode, chapitre 20, à partir du verset 8. Souviens-toi du sabbat pour le consacrer. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tous tes travaux, mais le 7e jour est un sabbat pour le Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ta bête, ni l'étranger qui vit en tes portes. Car en 6 jours, le Seigneur a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, mais il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a consacré. Et je vous propose de lire tout de suite 2 textes qui se trouvent dans le Nouveau Testament, dans lesquels Jésus et puis l'apôtre Paul ont quelque chose à dire sur le sabbat. Le premier se trouve au chapitre 12 de l'Évangile selon Matthieu. À partir du verset premier. À cette époque, Jésus traversa les champs un jour de sabbat. Ses disciples avaient faim et commençaient à arracher les épis et à les manger. Quand les pharisiens voyaient cela, ils lui dirent « Regarde, tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire le sabbat. » Mais il leur dit « N'avez-vous pas lu ce que fit David quand il avait faim, lui et ceux qui étaient avec lui ? Comment il entra dans la maison de Dieu et comment ils mangèrent les pains d'exposition qu'ils n'avaient pas le droit de manger, ni ceux qui étaient avec lui, mais les prêtres seuls. Ou n'avez-vous pas lu que le sabbat, les prêtres dans le temple violent le sabbat sans se rendre coupables ? Mais je vous dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que veut dire « je veux la compassion et non pas un sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents, car le Fils de l'homme est le maître du sabbat. Et puis, comme je vous ai dit, un texte sous la plume de l'apôtre Paul qui se trouve dans son épître aux Colossiens, au chapitre 2e, à partir du verset 13. « Et vous, qui étiez morts dans vos fautes et par l'incirconcision de votre chair, il vous a vivifié avec lui. » Jésus, bien sûr, en nous pardonnant toutes nos fautes. Il a annulé l'acte qui était dirigé contre nous par décret. Il l'a enlevé du centre en le clouant lui-même à la croix. Il a dépouillé les principats et les autorités et il en a fait un spectacle public en les conduisant dans son cortège triomphal. Alors que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez ou buvez ou encore à propos de fêtes, de nouvelle lune ou de sabbat. Tout cela est l'ombre des choses à venir, mais la réalité est le corps du Christ. Je reviens à l'Exode. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça devrait être un commandement facile, mais en réalité, c'est un commandement qui provoque des difficultés, des débats et parfois même des malaises. Des malaises parce que on peut se poser, à juste titre, ce qu'il en est de notre pratique. Le sabbat, c'est le samedi, précisément le vendredi soir, après le coucher du soleil, jusqu'au samedi soir. Et nous, on se réunit le dimanche. Alors, est-ce que c'est équivalent ? Est-ce que c'est aucun rapport entre les deux ? Voilà des questions qui peuvent surgir tout de suite. Et plus profondément, le malaise remonte très très loin. Il remonte à l'époque de Jésus lui-même, qui a allègrement déclenché des hostilités au sujet du sabbat. Comme vous le savez, si vous connaissez un petit peu les évangiles, Jésus a pris presque un malin plaisir à guérir le jour du sabbat alors que ses adversaires étaient blancs de rage. Donc le malaise est vieux, le débat est ancien et ça rend ce commandement très délicat à manier, je dirais, pour nous aujourd'hui même. Alors, quand on se penche sur ce commandement, avant de parler du repos, vous allez observer que, en fait, on parle du travail. Le commandement nous dit d'abord, et on l'oublie parfois, tu travailleras pendant 6 jours. C'est un rythme de travail relativement soutenu. Et si vous ajoutez à ça le fait que l'on travaillait davantage par jour, et j'en veux pour preuve la parabole des travailleurs de la 11e heure, vous savez, ces travailleurs agricoles qui se font embaucher au cours de la journée, et les derniers, en fait, à la 11e heure, et ils travaillent encore une heure, ce qui veut bien dire que ceux qui travaillaient toute la journée, ils travaillaient 12 heures. Donc, si vous ajoutez un rythme de 6 jours de travail par semaine à 12 heures de travail par jour, vous arrivez à une semaine de 72 heures, ce qui est quand même considérable. je sais bien, c'est toujours malaisé de comparer des situations très différentes, hein, même entre pays, c'est toujours un peu délicat. C'est une société agricole, et ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que le travail ne tombe pas toujours de la même façon. C'est au gré des saisons qu'on travaille un peu plus, un peu moins, même en fonction du temps. Hein, s'il fait trop mauvais pour faire ce qu'on avait prévu de faire, ben on ne fait rien ou on fait autre chose. Mais enfin, il y a quelque chose qui peut facilement déranger ce rythme de travail, sans parler du fait que, comme nous l'apprend la parabole elle-même, que ces ouvriers ne trouvaient pas toujours du travail, hein, et surtout pas toute la journée. Donc, voilà. Ceci étant dit, quand même, hein, le rythme de travail qui nous est suggéré ici est très soutenu. Et on devrait peut-être parfois être un peu plus prudent avant de nous plaindre, hein, de ce qu'on a trop de travail, hein, qu'on n'a pas une seconde, hein, avec nos 35, 40, peut-être 50 heures de travail. On est quand même relativement faible par rapport à ce que d'autres peuvent vivre dans le temps et même, je dirais, nos contemporains dans certains pays. Mais prenons maintenant un petit peu de recul avant de plonger vraiment dans le commandement tel qu'il est. Parce que ce commandement, comme tous les autres, pose une grande question, à savoir le rapport du chrétien à la loi. Et ça, c'est un grand débat, c'est une question difficile, et je crois que c'est une question dans laquelle il faut vraiment être très clair. C'est très complexe, mais en même temps, c'est là que beaucoup de gens quittent la route, parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre comment se situer par rapport à la loi de l'Ancien Testament en tant que membre de la Nouvelle Alliance. Et je connais personnellement des gens qui ont fait fausse route, je crois. Une amie qui était même dans cette église à un moment donné, qui est partie et qui, je ne sais pas exactement dans quel groupe elle s'est retrouvée, mais elle s'est fait judaïser. C'est-à-dire, elle pratique les fêtes juives, elle pratique le sabbat, elle mange kasher, enfin bref, elle essaie de pratiquer la loi dans toute sa splendeur. Et son grand combat maintenant, c'est contre Noël, c'est contre Pâques et tout cela. C'est très facile de tomber dans ce genre de piège quand on n'a pas les idées claires quant à la loi. Et vous pouvez imaginer que ce n'est pas une question nouvelle. Des gens y ont beaucoup réfléchi au cours des siècles, des gens très brillants. Nos meilleurs théologiens se sont penchés sur la question et ils ont trouvé des choses fort intéressantes. Ils ont essayé de voir comment la loi est reçue dans les textes du Nouveau Testament même. Et c'est ça la bonne approche. Et ils ont constaté que ça dépend des lois. Et pour faire simple, ils ont dégagé qu'il existe trois types de lois, selon la réaction que nous présente le Nouveau Testament. Le premier type de loi qui existe, c'est ce qu'on peut appeler la loi morale. Qu'est-ce que c'est que la loi morale? C'est, pourrait-on dire, la volonté immuable de Dieu pour l'homme. Alors, ce sont des commandements tels que tu n'assassineras pas, ou tu ne commettras pas l'adultère, ou tu ne porteras pas faux témoignage, ou encore honore père et mère. Là, vous avez vraiment ces commandements piliers. Ça, c'est la loi morale. Ça ne change pas. Et si vous regardez dans le Nouveau Testament, il se passe quelque chose de fort intéressant. Ces lois-là sont amplifiées. Et notamment dans le discours de Jésus sur la montagne, le sermon sur la montagne, où Jésus prend quelques-unes de ces lois et va mettre le paquet. Il va dire, on vous a dit, tu ne tueras pas. Eh bien, moi, je vous dis, même si vous vous mettez en colère contre quelqu'un, vous êtes passible de jugement. Il nous dit, on vous a dit, tu ne commettras pas l'adultère. Eh bien, moi, je vous dis, même si tu regardes une femme avec convoitise, tu as déjà commis l'adultère. Qu'est-ce qui est en train de se passer là? Il est en train de pousser cette loi au-delà, je dirais, du simple fait de l'action jusque dans les sentiments, dans le cœur, dans l'intention, et il va traquer ça jusque-là, il va dire, il suffit que tu aies l'idée pour que tu sois passible du jugement. La loi morale, elle est amplifiée. Ensuite, il y a, dans les textes de l'Ancien Testament, un autre type de loi qu'on trouve assez fréquemment, c'est la loi qu'on qualifierait de civile. La loi civile, c'est la loi qui règle la vie de la société civile israélite. Alors là, il y a une multitude de questions qui se posent. Dans cette société agricole, on va se poser la question, par exemple, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un a une bête dangereuse qui, par inattention ou que sais-je, se met à blesser ou à tuer une autre bête, voire même un être humain. Qu'est-ce qu'on fait? Ou alors des questions du type, comment distinguer un homicide involontaire d'un meurtre? Ou quelles sont les pénalités pour tel ou tel délit? Ça, c'est la loi civile. Et cette loi civile, comment elle est traitée dans le Nouveau Testament? Presque pas. Presque pas. Et je crois qu'on peut facilement comprendre ça, parce que c'est une loi qui est vraiment donnée dans un contexte précis et n'a pas beaucoup de sens une fois qu'on la sort de ce contexte. Vous trouverez parfois des applications, mais en fait l'approche est différente. On ne va pas appliquer la loi telle qu'elle, mais pas, enfin, cette loi n'est pas pour autant sans intérêt pour nous, comprenez bien. Parce qu'elle nous dit comment Dieu, dans un contexte précis, a réglé les affaires, comment dans ce contexte-là, il fallait agir pour être en phase avec la volonté de Dieu. Et donc, on peut en dégager des principes. On ne peut pas l'appliquer tel quel, mais on peut essayer de voir quelle est l'intention du législateur et appliquer cette intention dans notre contexte. Et vous voyez ça, par exemple, lorsque l'apôtre Paul prend une loi de l'Ancien Testament qui concerne les bœufs, le bœuf qui musellera, tu muselleras pas le bœuf qui fout le grain, et qu'est-ce qu'il en tire comme application? L'application que celui qui travaille doit recevoir son salaire. Donc il dégage le principe foncier de cette loi, et il va l'appliquer au ministère de l'Église, il va dire celui qui prêche, eh bien, il doit avoir son salaire pour son travail. Voilà, cette loi se trouve complètement modifiée, pourrait-on dire, mais en même temps le principe est respecté. Ça c'est la loi civile. Donc, loi morale, amplification. Loi civile, application par principe, je dirais. Et puis, il y a une troisième catégorie de loi, et elle est aussi très présente dans l'Ancien Testament, c'est la loi qu'on pourrait qualifier de cultuelle. C'est la loi qui concerne les rites de la religion, la circoncision, les sacrifices dans le temple, et toutes ces choses-là. Et cette loi, dans le Nouveau Testament, elle est extrêmement présente, parce que ça chauffait dans la jeune Église par rapport à cette loi. C'était un énorme problème, le débat de la circoncision, par exemple. Est-ce que les chrétiens doivent être circoncis, oui ou non? Et vous n'avez presque pas d'épître de Paul où il ne s'attaque pas à ce problème-là. Comment traiter cette loi cultuelle? Et la réponse, en fait, des apôtres, elle est très nette. Cette loi, ce type de loi, est caduque. Il est caduque. Pourquoi? Parce que dans la Nouvelle Alliance, vous entrez dans l'Alliance par la foi, et par la foi seule, et non pas par la circoncision. Ça ne veut pas dire que les Juifs doivent arrêter de se circoncire. Ils peuvent le continuer. Ne serait-ce que pour ne pas choquer les autres dans leur témoignage. Mais il est hors de question pour les apôtres d'imposer ce type de loi aux membres, aux chrétiens d'origine païenne. C'en est fini avec ces choses, c'est caduque, c'est à arrêter, on n'en parle plus, surtout on n'impose à personne. Et c'est dans ce contexte-là, oh là, on va arrêter ça. C'est dans ce contexte-là que Paul va dire ce que nous venons de lire. Alors que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez ou buvez, ou encore à propos de fêtes, de nouvelles lunes ou de sabbats. que personne ne vous juge, c'en est fini. Et en regardant de près, on voit déjà ça chez Jésus. Dans le texte que nous avons lu ensemble, nous l'avons vu. Vous savez, Jésus a constamment eu des problèmes avec cette histoire de sabbat. Et ce n'est pas un cas isolé. Et bien sûr, dès que vous avez une loi, vous avez des problèmes d'application. C'est dans la nature même des lois. Dès qu'on vous donne une loi, vous pouvez vous poser des questions. Là, par exemple, la loi nous dit, tu te reposeras, tu ne travailleras pas. Surgit tout de suite la question, mais qu'est-ce que c'est qu'un travail ? Est-ce que telle ou telle chose se qualifie comme travail ? Et dans le récit que nous avons lu, où les disciples, ils prennent un peu de blé, ils mangent, on aurait pu se défendre. Jésus aurait pu les défendre en disant, bah, franchement, là, vous exagérez, ce n'est pas un travail. Mais si vous regardez comment il a choisi de répondre, vous verrez que ce n'est pas du tout l'approche qu'il a choisie. Qu'est-ce qu'il va dire ? Il va raconter une histoire de David, une histoire de transgression. Un récit où David s'est permis, dans une situation d'urgence pour lui, d'aller au-delà de la loi qui interdisait à quiconque de pénétrer dans le temple, et encore de manger les pains de proposition. David a ignoré cette loi et il l'a transgressée. Et c'est ça que Jésus va invoquer dans le débat. C'est tout de même intéressant. Et puis, il va se déclarer le maître du sabbat. Donc, vous voyez déjà que chez Jésus, vous avez cette rupture, en quelque sorte, qui est amorcée. Alors, on pourrait se dire, pour revenir maintenant précisément à notre loi du sabbat, on pourrait dire, bah, finalement, c'est caduque. On n'a qu'à arrêter avec le sabbat, c'est fini. Vous avez bien lu, Paul dit, que personne ne vous juge à propos de sabbat. C'est réglé, on n'en parle plus. C'est un truc de l'ancienne alliance, point final. Mais il ne faut pas aller trop vite en besogne. Il ne faut pas aller trop vite. Parce que là, vous n'avez pas fait tout le tour de la question. Il y a quand même deux aspects qui devraient nous inviter à la prudence. Premier aspect, c'est que cette loi se trouve dans le décalogue. Alors le décalogue, c'est vraiment la quintessence de la loi. Et c'est la seule loi que Dieu a donnée lui-même au peuple, qu'il a déclarée lui-même devant le peuple. Et c'est la loi qu'il a écrite de son doigt sur la première version des tablettes. Donc, on a ici affaire à quelque chose de très important, à des stipulations de loi capitales. Et c'est un peu curieux qu'on en jette une. Vous voyez ? Qu'on dise les 10 commandements, oui, 9. 9, ça nous va bien, les 9, on les garde, mais le quatrième... Mais de côté. Ça sonne fou. Et puis, et c'est pour ça que j'ai lu tout à l'heure la version de l'Exode. Si vous vous souvenez, à la fin, dans cette version, et ça, c'est pas vrai dans le Deutéronome, c'est pour ça que j'ai préféré la version de l'Exode. À la fin, la justification de cette loi, elle est de type créationnel. Car en 6 jours, le Seigneur a fait les cieux et la terre, et ainsi de suite. Et je vous ai dit ça l'autre jour en discutant des anciens, et si une femme pouvait être ancienne ou pas. Je vous ai dit, je ne pense pas, et je pense parce que l'argument, en fait, que l'Écriture invoque, elle a un fondement créationnel. Donc toujours quand vous avez des affirmations bibliques qui invoquent un fondement créationnel, vous touchez à des choses telles que Dieu les a inscrites, je dirais, dans la matrice même de la création. Avant la chute. Et donc ça, c'est des choses qui ne sauraient pas être passagères. C'est de la DNA, pourrait-on dire, de la loi. Et donc, si ce commandement a un fondement créationnel, on ne saurait le mettre de côté comme ça, facilement. Le quatrième commandement, si vous le regardez dans son contexte, c'est une loi un peu mixte. Déjà, au sein du décalogue, c'est le commandement de transition. Vous avez trois commandements qui sont nettement centrés sur Dieu. Il y a le quatrième qui, on le range aussi en général dans cette catégorie-là. Mais si vous regardez bien, on commence à parler du prochain. Parce que cette loi vous impose aussi un comportement à l'égard de ton fils, ta fille, ton serviteur, ta servante, tes bœufs. Hein. Donc vous avez déjà cette optique vers les autres qui sera celle des autres commandements qui viennent par la suite. Donc c'est un commandement de transition. Et je crois qu'il est aussi un commandement mixte en ce sens qu'il comporte un peu les trois types de lois que j'ai évoquées tout à l'heure. Touche peut-être ici un peu à la limite de cette classification en trois types de lois, hein, morale, civile et culturelle. Hein, le quatrième commandement comporte probablement un petit peu de chaque. Est-ce qu'il a un aspect culturel ? C'est probable. Et quel est cet aspect culturel ? C'est probablement le jour même, le sabbat, hein, le samedi, si vous préférez. Ça semble être culturel, lié au culte d'Israël. Mais cet aspect-là, probablement, est caduc. C'est-à-dire, nous ne sommes plus liés à un jour particulier. Je dirais, l'Église a choisi le dimanche. Et c'est un choix qui a un sens, parce que c'est le jour où notre Seigneur est ressuscité, et cette résurrection, elle a bouleversé l'ordre du monde. Et ça a un sens de dire, désormais pour nous, c'est le dimanche. Mais dans d'autres pays, dans d'autres circonstances, les chrétiens ont choisi le vendredi. Je pense aux pays de la domination arabe, où c'est le vendredi, le jour férié. Eh bien, les chrétiens se réunissent le vendredi, et ils ont raison de le faire. Ils ne sont pas liés, me semble-t-il en tout cas, par ce jour particulier. Ça, c'est vraiment l'aspect culturel que nous pouvons mettre de côté sans prendre de risques. Mais ce n'est pas tout. Et je crois qu'on ferait tort à ce commandement du sabbat d'y voir uniquement une stipulation de type culturel. Il y a d'autres dimensions, et notamment une dimension qu'on pourrait qualifier de peut-être pas tellement de civile, mais de morale. La référence à la création nous le rappelle, nous sommes créés par Dieu. Et notre être reflète quelque chose de cette création. Et Dieu est en quelque sorte notre fabricant. Et quand vous avez un objet, et vous voulez l'utiliser, et vous faites bien de lire la notice qui va avec. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Je ne le fais pas toujours. Quand j'ai un nouveau gadget, souvent, je suis impatient. Et puis, j'aime pas trop les traductions mauvaises du chinois que je ne comprends pas. Donc, je l'utilise sans lire le manuel. Mais parfois, ça peut mal tourner. Et ici aussi, vous avez, je crois, une instruction du fabricant qui dit, cet être humain que j'ai créé, il a besoin de repos. Il doit fonctionner avec du repos. Il y a 6 jours de travail, mais le 7e jour, c'est du repos nécessaire. Donc il y a sans doute cet aspect-là. Et puis il y a un aspect, je l'ai déjà un peu évoqué, tourné vers les autres. Le commandement est assez incisif à cet égard, hein, avec cette répétition, quand il dit « Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ta bête, ni l'étranger qui vit dans tes portes. » Donc cette référence aux autres, nous sommes aussi appelés à laisser ce repos aux autres. Ce n'est pas seulement quelque chose qui nous concerne, mais eux, ils partagent cette condition humaine qui nécessite ce repos, et nous devons donc leur laisser aussi ce repos qui leur est nécessaire. Alors les chrétiens ont parfois pris ça très, très étroitement, en refusant de faire le moindre achat le dimanche, vous connaissez tout ça, je crois. Peut-être a-t-on parfois un peu exagéré. Mais ceci étant dit, il y a peut-être là aussi des mauvaises habitudes qu'il ne faut pas se laisser installer. Si vous commencez à faire vos courses de la semaine systématiquement le dimanche, il y a peut-être un souci, ou si les soldes, c'est le dimanche pour vous, méfiez-vous, hein. Vous êtes appelé aussi à laisser aux autres la possibilité de se reposer, et votre comportement ne devrait pas générer l'impossibilité pour les autres de bénéficier de ce repos dont ils ont besoin. Et enfin, il y a quand même une dimension, je dirais, sacrée. Hein. Souviens-toi du sabbat pour le consacrer, consacrer à Dieu. Hein. Le sabbat, notre dimanche, doit être l'occasion de nous retrouver, comme nous le faisons aujourd'hui, devant Dieu, d'étudier sa parole, de prier ensemble, voilà, d'être communauté de la Nouvelle Alliance. Et c'est un jour de Dieu. Or, on a parfois l'impression que cette dimension est prise à la légère. Nous sommes dans cette église, quand on fait la comptabilité, nous sommes 200 personnes, je ne sais pas exactement le chiffre, hein, à fréquenter cette église. Or, il n'y a jamais un dimanche où sont plus de 100. Et je ne parle pas des dimanches où une partie se réunit ailleurs. On a l'impression que voilà, les gens viennent quand ça leur chante. Ou aujourd'hui, je ne le sens pas trop, alors je reste à la maison. Vous voyez, c'est dangereux. Je crois que le commandement devrait nous rappeler un peu à l'ordre dans ce domaine. Dieu a voulu qu'une fois par semaine, on se repose et consacre un jour à lui. Et cela implique, je crois, nos réunions tous ensemble, dont nous avons aussi besoin que nous le sachions pas. Alors, ne soyons pas mal à l'aise avec le quatrième commandement. Laissons-nous instruire, encourager, reprendre et libérer aussi par ce qui nous apprend sur la volonté bonne, agréable et parfaite de notre Dieu. Amen.